les jardinières.
Profitons des heures fraîches du matin pour s'occuper du jardin. L'après-midi sera réservé à la contemplation de son travail depuis la terrasse. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Olivier Ribaud est avec nous ce matin. Il va répondre à vos questions jardinage et nous parler de parterre de plantes vivaces. Bonjour Olivier.
Et bonjour à vous.
Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy. Soyez le bienvenu chez les jardinières.
Et les jardinières, c'est votre moment jardinage du samedi. Nous sommes avec vous jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Le soleil devrait être bien présent ce week-end, même s'il est un petit peu discret ce matin, avec quelques orages ou averses au programme. Olivier, c'est un temps idéal pour jardiner. On peut encore, par exemple, planter des plantons dans son potager, comme par exemple des plantons de courge.
Alors oui, bien sûr, on peut encore, parce que c'est des activités qu'on avait peut-être mis un peu en retard à cause de la météo de ce printemps qui était très mouillée. Bon, maintenant, le temps a changé. On a le jardin qui a pu être préparé. Donc, on peut mettre encore les courges sans problème. Je ne te cache pas que j'ai planté quelques-unes hier après-midi. Donc,
On est dans les temps.
Après, on trouve encore beaucoup dans les commerces, justement, des plantons parce que la saison s'est un petit peu repoussée plus tard. Et puis, surtout, j'insisterai qu'on peut planter à cette période les plantons qu'on dira, nous, d'automne. Ça veut dire une racine rouge, par exemple, un chou de Bruxelles, un chou d'automne, parce que les choux blancs qu'on a plantés au mois d'avril, mai, c'était des choux avancés. Maintenant, on va planter les choux qui viendront l'automne pour faire des choux de garde. Et ça, on a ça dans les choux blancs, dans les choux rouges, et c'est des variétés qui sont différentes. Donc, c'est maintenant que ça se plante, et puis comme ça, après, on pourra les garder plus longtemps pendant l'hiver. C'était beaucoup plus différencié dans le passé. Maintenant, on prend un chou, on se dit c'est un chou, mais il y a encore des gens qui connaissent ça. Les choux-fleurs d'automne sont des choux-fleurs qui poussent beaucoup mieux si on les plante maintenant, jusqu'à la production qui donnera plus tard en automne.
Et si on veut faire sa choucroute en automne, c'est maintenant qu'il faut planter son chou à croûte.
Exactement, c'est les choux tardifs, c'est maintenant qu'on les plante. Après, ils vont venir en feuilles assez longtemps jusqu'au mois de septembre, octobre. On va les récolter justement à partir d'octobre, pas avant. Et puis après, pendant l'hiver, on va préparer son fameux tonneau de choucroute.
Merci beaucoup Olivier, vous restez avec nous jusqu'à 8h et vous répondrez aux questions de nos auditeurs, des questions qu'on attend par téléphone au 0901 70 20 20, et la possibilité de parler en direct avec Olivier. Vous avez aussi le choix du formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émissions questions aux jardinières, avec la possibilité de joindre une photo, ou alors vous avez aussi le SMS, vous tapez jardin un espace et votre question et vous nous l'envoyez au 939.
Dans quelques instants, Olivier nous parlera de parterre de plantes vivaces. Comment mettre en place ce parterre, comment s'en occuper et quelles plantes semer? La réponse dans quelques minutes.
7h, 8h, les jardinières.
On en voit de plus en plus, mais connaît-on vraiment les parterres de plantes vivaces? Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy, est notre invité ce matin et il va tout nous dire, ou presque, sur ces parterres qui offrent de la couleur tout au long de l'année. Alors Olivier, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire un parterre de plantes vivaces?
Alors, la description, sans voir un visuel, c'est un peu compliqué, mais un parterre de plantes vivaces, c'est quelque chose qui ressemble à, je dirais, à un jardin un peu sauvage, où c'est qu'on retrouvera justement des touches de couleurs tout au long de l'année. Et une fois, ce sera une qui va fleurir, l'autre. Donc justement, il y a des hauteurs différentes, il y a des plantes différentes. Donc ça veut dire qu'on mélange aussi beaucoup des plantes vivaces avec des couleurs de feuillage, et y compris des graminées. Donc c'est vraiment un mix de tout. Alors on a des fois l'impression que c'est un parterre d'herbes qui a poussé naturellement, mais qu'en final on a mis en place pour avoir justement des fleurs un peu toute l'année.
Et mettre en place un parterre de plantes vivaces, ça prend du temps et c'est le moment de s'y mettre pour en profiter l'année prochaine. Olivier, quelles sont les étapes clés à suivre pour préparer le sol avant de créer un parterre de plantes vivaces?
Alors justement, c'est quelque chose qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance, parce qu'on doit différencier la vivace avec la mauvaise herbe. Et pour pouvoir faire un parterre où c'est qu'on n'a que des plantes vivaces qui vont se mettre en place avec du temps, parce que c'est des parterres qu'on va mettre pour 10-15 ans, ils vont rester longtemps à la même place. Donc, on doit partir sur un endroit qui est déjà bien propre, bien nettoyé. Alors, ce qu'on a souvent, c'est que les gens, ils nous disent « Ouais, je voudrais mettre des fleurs pour avoir quelque chose de joli. » Alors, on a souvent de l'herbe, de la mauvaise herbe. On a des choses qui sont restées pendant des années et qu'on doit éliminer. Alors, bien sûr, on a un moyen que tout le monde n'aime plus utiliser, c'est le moyen chimique. Donc, on essaye d'éviter cette partie-là. Et pour pouvoir enlever des mauvaises herbes, il faut commencer maintenant. Et il y a un système qui marche très très bien. On a tous eu exemple, une fois ou l'autre, d'avoir mis une piscine au milieu de son gazon. Et puis quand on l'enlève l'automne, il n'y a plus d'herbe. C'est assez simple. C'est de mettre une bâche à trous, une bâche noire, sur sa partie de jardin qu'on voudrait utiliser pour mettre ses vivaces. C'est de la mettre maintenant. Il fait très chaud. Donc là, l'herbe va brûler en dessous, va disparaître. Et on va caler cette bâche pour qu'elle reste jusqu'à l'automne, jusqu'avant l'hiver, pour que l'herbe disparaisse, pour pouvoir préparer sa plate-bande après pour la saison suivante.
Et puis du coup, pas de produits chimiques dans la terre, ce qui est très bien pour les micro-organismes. Olivier, comment est-ce qu'on choisit l'emplacement idéal pour un parterre de plantes vivaces dans son jardin ?
Alors, l'emplacement, c'est encore une chose différente, mais je vais finir parce qu'on a mis notre bâche en place et on peut la retirer déjà avant l'hiver, parce que l'automne, on n'aura plus d'herbe. Donc, ce qui peut être fait pour pouvoir faire une plantation de printemps très tôt, au mois de mars ou même déjà fin février, c'est déjà d'ameublir son sol, parce que vu qu'on aura éliminé l'herbe existante, on a encore des graines qui peuvent stagner dans le sol. On sait qu'une graine de rumex peut rester pendant plus de 60 ans à stagner dans la terre sans germer. Donc après, ce qu'on va faire à l'automne, c'est de remuer ce sol, qu'il soit en pente, à plat ou devant la maison ou à côté, c'est égal. On va ameublir, on va bêcher, on va travailler ce sol et on va le laisser nu comme ça jusqu'au printemps. Et chaque fois qu'on reverra une petite levée de mauvaises herbes, on va retravailler le sol pour vraiment éliminer à 100% toutes les mauvaises herbes. Il y a des gens qui disent « Ouais, là, dans son jardin, on n'a jamais vu d'herbe. » C'est parce que c'est des personnes qui ameublissent le sol souvent. On sarcle, on élimine toutes ces mauvaises herbes.
Et puis, Olivier, quels sont les avantages des parterres de plantes vivaces par rapport aux parterres de plantes annuelles ?
Alors là, c'est une grande diversité, un grand changement. On a vu souvent, on plantait beaucoup, beaucoup de fleurs le long des routes, à des endroits. Ça demande beaucoup, beaucoup d'entretien, ça demande des heures d'arrosage. Donc en plus, on verra ça un peu après, mais c'est vraiment une chose différente. On a moins l'effet massif où c'est qu'on a des grands parterres de fleurs très colorés, comme dans des grands parcs, c'était très joli, on le fait encore, mais un parterre de vivace va pouvoir être plus grand. On va utiliser des zones que dans le temps, on allait faucher une à deux fois ou même tondre toutes les semaines. Donc, on va éliminer tous ces travaux qui sont aussi très coûteux. Et puis, on va avoir des zones où c'est que on aura plus une herbe un peu folle avec justement des touches de couleurs qui sont très intéressantes.
Merci beaucoup Olivier, on va revenir dans quelques minutes pour la suite de cette discussion sur les parterres des plantes vivaces. Vous allez entre autres nous conseiller quelques vivaces à planter dans nos parterres. Et puis comme vous l'avez dit, on va parler arrosage aussi.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy, nous parlons de parterres de plantes vivaces. Olivier, alors quelles sont les plantes vivaces les plus populaires de ces parterres de fleurs ?
Alors, il y en a pas mal. Je vais essayer de rester dans des noms un petit peu connus parce que sinon, je vais me perdre et puis je vais tout seul à...
On vous laisse, vous avez 40 minutes.
D'accord. Non, alors, il y a vraiment beaucoup de fleurs qui sont déjà connues, comme si je parle de l'échinacée, par exemple. Vous avez toute la famille des géraniums vivaces. On connaît tous le géranium des balcons qu'on a mis en place là, il n'y a pas très longtemps. Mais il y a des magnifiques géraniums vivaces qui fleurissent très, très, très longtemps. Après, bien sûr, il y a des fleurs qui fleurissent tôt au printemps, comme les aubriettes, les corbeilles d'or, ça c'est des fleurs qui sont connues. Mais après, on a des goras par exemple, on a des saponaires, on a des litrumes, alors des lupins, ça c'est aussi quelque chose qui est connu. Donc on a quand même pas mal de plantes vivaces. Là, j'ai donné une petite série de noms avec des fleurs, mais on a aussi toutes les vivaces qui font des feuillages. On a des eucheras par exemple, c'est une vivace qui fait des feuilles rouges très foncées, qui peut être très joli mélangé avec d'autres vivaces. On a aussi par exemple les hostas, c'est une vivace qu'on va mettre plutôt à l'ombre. Donc il y a aussi des différences entre les endroits qu'on va planter ces vivaces.
Et puis Olivier, lorsqu'on fait le choix des plantes vivaces qu'on peut mettre sur son parterre, c'est quoi les éléments à prendre en compte ?
Alors le premier élément à prendre en compte, c'est qu'on ait une floraison, justement comme on l'a dit depuis le départ, c'est d'avoir des massifs qui soient colorés, semi-colorés pendant toute l'année, parce qu'on n'aura pas cet impact visuel comme une fleur d'été. Donc on va avoir déjà les premières couleurs qui viendront au printemps. Moi je commence des parterres de vivaces avec des bulbes, donc on a déjà des narcisses, des crocus, des choses qui fleurissent très très tôt, donc ça donne envie, ça donne un ton. Et puis après vous avez les vivaces qui vont fleurir printemps, été et jusqu'à l'automne. On prend une anémone d'automne par exemple, c'est une très jolie fleur qui va commencer de fleurir très très tard et qui va durer jusqu'à l'automne. Vous avez les vendangeuses qui sont un nom français de cette plante, c'est les astères, c'est aussi une fleur qui fleurit plus tard. Donc elles sont moins connues, on a plutôt tendance de planter des fleurs de printemps, mais c'est vraiment à prendre en compte.
Alors, quand on met en place en fait un parterre de plantes vivaces, il faut vraiment réfléchir à long terme en fait. Qu'est-ce qui va être où et quoi ?
Alors, il faut réfléchir à deux choses, je dirais. La première, on a dit, c'est de préparer son sol le plus correctement possible pour partir sur une zone propre. La deuxième chose, c'est de voir l'endroit, la situation où se trouve votre parterre. Donc, quand on dit parterre, ça peut être aussi un endroit entre deux arbres, ou ça peut être vraiment des endroits très, très différents. Donc, ça, la situation où ça se trouve, si c'est à l'ombre, plein soleil, si c'est très sec, si c'est un sol très humifère. Donc, on va choisir des plantes vivaces différentes et puis on va choisir après sa couleur, je dirais, parce que on va faire des parterres de vivaces un petit peu de couleur uniforme. On va pas mettre du jaune, du bleu, du rose, on va essayer de pas trop mélanger, on va rester dans des panels de couleurs qui s'adaptent bien entre elles.
Merci beaucoup Olivier, on va vous retrouver dans quelques minutes pour continuer de parler de parterres de plantes vivaces, juste après un peu de musique, la météo et l'inforoute.
Les jardinières.
Comme chaque samedi matin, prenez le temps d'écouter les conseils de notre spécialiste en jardinage et de lui poser vos questions. Ce matin, nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy.
Et Olivier attend avec impatience vos questions. Appelez-nous maintenant au 0900 70 20 20 pour parler directement à notre spécialiste. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo avec votre question en passant par le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Vous pouvez aussi nous faire parvenir votre question par SMS. Vous tapez à jardin, un espace, votre question et votre nom. Et puis, vous nous envoyez ce message au 939.
En première partie d'émission, nous avons parlé de parterres de plantes vivaces. On va continuer un petit peu cette discussion. Alors, Olivier, vous nous aviez expliqué comment le mettre en place avec une bâche, histoire de faire partir toutes ces mauvaises herbes. Mais est-ce qu'il existe des méthodes de protection contre les mauvaises herbes dans un parterre de plantes vivaces une fois que ce parterre est mis en place ?
Oui, tout à fait. Alors, comme on l'a dit au départ, on a mis la bâche, on l'a retirée pour, après avoir fait mourir la mauvaise herbe. On a préparé son sol, on a planté nos vivaces. Et maintenant, juste après la plantation, ce qu'on peut faire, une fois qu'elles sont toutes mises en place, on va faire un paillage. Ça veut dire qu'on va utiliser soit la paille de chanvre, par exemple, ça se trouve facilement dans le commerce, ou des écorces, du mulch d'écorce. C'est du broyage d'écorce de sapin qui va faire un paillis, donc qui va protéger le sol pour éviter qu'il vienne une germination de mauvaises herbes. Et en plus de ça, ça va garder une humidité constante sous ce paillage. Donc c'est vraiment très important de le faire pour qu'on n'ait pas un envahissement de mauvaises herbes qui viendrait après.
Et Olivier, on parle souvent d'arrosage, d'ailleurs c'était le thème des jardinières la semaine passée. Un parterre de plantes vivaces, c'est comme le potager, on l'arrose souvent ?
Alors de nouveau, je reprends ce qu'on a dit avant, c'est le fait d'avoir fait un paillage, ça va déjà nous éviter en tout cas 2 à 3 arrosages sur une petite période dès le départ. Donc une fois qu'on a mis tout ça en place, l'arrosage d'un parterre de vivaces, c'est un petit peu à voir, à gérer, parce que si on arrose trop souvent ces vivaces, on va les faire pousser très rapidement, ça peut être joli, mais seulement on va les rendre trop frêles, trop délicates. Donc on doit avoir l'œil de se dire, bon ben on peut les laisser, elles ont un peu soif, mais c'est pas grave, justement parce que c'est une fleur qui peut s'adapter à des situations, des climats, comme on le vois maintenant, des vivaces qui ont été mis en place l'année passée. Moi, personnellement, j'ai encore pas fait d'arrosage parce que les plantes, elles sont ancrées, elles ont des racines profondes. Donc, c'est une culture qui est plus facile que si on a planté des fleurs d'été qu'on va arroser régulièrement. Mais après, c'est une observation. Et puis quand on commence de voir que ben, on va faire un bon arrosage, très copieux, et qu'après, on peut de nouveau attendre une bonne période.
Merci Olivier. Donc les parterres de plantes vivaces, c'est idéal hein, pour les talus, au pied des arbres ou sur les ronds-points, on en voit aussi dans nos villes. Olivier, vous qui êtes pépiniériste, si vous deviez décrire votre parterre de plantes vivaces idéal, il serait comment?
Alors, bon, j'ai comme tout le monde, j'ai des goûts peut-être différents ou comme ça, mais moi, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un mélange de fleurs qui commence justement par les bulbes de printemps et puis qu'on ait vraiment de la couleur jusqu'en automne. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'on a des périodes où c'est qu'il fait très chaud, la fleur, elle commence de s'arrêter de donner son effet, mais après, il y a le choix, c'est surtout les couleurs. On a vraiment des fleurs vivaces maintenant qu'on recultive. Si on va un petit peu regarder dans les jardineries et partout, on retrouve pas mal de plantes vivaces qui étaient une fleur qui avait été mise un peu de côté. On a des producteurs spécifiques qui font aussi beaucoup de vivaces, beaucoup d'efforts. Et justement, ils nous donnent maintenant aussi l'opportunité d'avoir des couleurs qu'on reste toujours un petit peu dans les mêmes tons. Parce qu'avant, on mettait un jaune, un bleu, un rose. Donc moi, je serais plus à rester vraiment dans une uniformité de la couleur.
Brian, vous êtes là ?
Je suis là, Mylène.
J'ai cru qu'on vous avait perdu. Vous écoutiez attentivement ouais. Olivier, c'est ça ?
Exactement. Merci beaucoup, Olivier. Dans la suite des jardinières, vous allez répondre aux questions de nos auditeurs qu'on attend toujours par téléphone, par exemple au 0901 70 20 20.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Vous avez la possibilité de poser vos questions directement à notre spécialiste. Ce matin, nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Port-en-Truy. Brian, on va peut-être rapidement rappeler aux gens qui arrivent comment nous joindre.
Vous pouvez nous joindre soit par téléphone au 0901 70 20 20 et poser votre question directement par téléphone. Vous avez aussi le choix du SMS. Vous tapez à jardin votre question et puis vous terminez par votre nom. Vous nous envoyez ce message au 939 ou alors vous avez aussi la possibilité de nous envoyer une photo avec votre question. Ça se passe sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Et c'est exactement ce qu'a fait Titiana de Sugier. Elle nous a envoyé une photo de son petit palmier. Bonjour, j'ai acheté un petit palmier Humilis Vulcano et j'aimerais savoir si je peux le laisser dans son pot d'origine ou alors faudrait-il le rempoter. Merci pour vos bons conseils et belle journée. Alors Olivier, je vous propose peut-être pour commencer de nous décrire un petit peu cette photo.
Alors d'accord, parce que j'avais pas trop compris comment tu avais commencé de faire du latin aussi facilement.
Non, je suis très douée en latin.
Alors je pense que ce palmier a été acheté avec une petite étiquette pour dénominer son vrai nom. Donc c'est un palmier nain. C'est un palmier, bon, bien sûr, qui vient du sud, qui est d'origine d'Italie par là-bas. Et en fait, c'est un palmier qui reste très, très compact. Il a ses feuilles qui sont très petites, un peu grisâtres. Et puis, les tiges, ils sont très piquantes. C'est très joli, c'est très compact. Ça tient à des situations très arides sur des balcons. Donc, c'est un beau palmier, mais qui ne va pas faire un tronc. Ça restera une touffe. Pardon.
Et puis, est-ce que Titiana doit le laisser dans ce pot d'origine ou est-ce qu'il serait mieux de le rempoter?
Alors, d'après la photo qu'on a reçue, elle l'a acheté justement, il est dans un pot d'origine et puis il est déjà pas très grand. C'est mieux de le rempoter. Même le pot dans lequel elle nous propose, il est encore un peu petit. Il faut savoir que quand vous achetez une plante, un palmier ou un citronnier ou n'importe quelle plante qu'on voudrait garder, une plante méditerranéenne qu'on voudrait garder sur son balcon, il faudrait pouvoir mettre en tout cas 10-15 cm de terre tout autour du pot. Ça veut dire que ça fait en tout cas une main de chaque côté. Donc là, on voit bien que c'est pas assez grand. Mais il faudrait pour la suite après le rempoter trop souvent. Donc si on peut le mettre directement dans un grand pot puis le laisser 2 ans en lui apportant un bon terreau au départ avec aussi des éléments d'engrais bien sûr parce que c'est quand même des plantes qui ont besoin de nourriture pour qu'ils restent de couleur verte, sinon ils vont venir jaunes. Donc c'est quand même un peu petit pour le pot qu'elle a mis sur la photo.
Et Olivier, quand on a un palmier comme ça qu'on rempote dans un pot plus grand, après c'est peut-être difficile de le déplacer, de le mettre à l'abri pour l'hiver. Titiana habite Sugier, donc il ne fait pas très 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 froid en hiver. Est-ce qu'elle peut le laisser dehors en hiver ?
Alors je dirais qu'elle pourra le laisser dehors les hivers qu'on a eus voici plusieurs années sans problème. Après, il faut toujours faire attention de peut-être pas les laisser très exposés à la bise, au froid, dans des situations les plus loin sur sa terrasse. Mais on peut l'emmener vers le mur, dans un angle, on peut le protéger. Mais c'est des choses qu'on doit aussi s'adapter et évoluer avec la saison qu'on a pendant l'hiver. Cette année, on a vu qu'il n'a pas fait très froid très vite. Mais après Noël, c'était encore correct, ça aurait joué. Mais cette année, au début d'année, fin janvier, début février, on a eu une période qui a été très mauvaise pour toutes ces plantes. On voit beaucoup de plantes méditerranéennes, des oliviers et d'autres, qui ont souffert parce qu'on a eu une bise glaciale avec des pluies givrantes. Et puis ça a fait une pellicule sur le feuillage et toutes ces plantes ont souffert fortement. Donc c'était à cette petite période-là qu'il aurait fallu les protéger plus ou les rentrer dans un endroit frais et les ressortir 10-15 jours après. Mais des fois, on veut juste le rentrer puis le ressortir qu'au printemps. Mais ça ne marche pas comme ça.
Merci beaucoup, Olivier. On a reçu une autre question, cette fois de Barbara de Cormoret, qui nous dit « Bonjour, j'ai planté un poirier l'année passée. Il est envahi de fourmis et de toutes les feuilles frises. Comment puis-je le traiter ? Merci pour votre conseil et belle journée. »
Alors, il y a deux choses dans sa question. La première, c'est quand on parle de fourmis, j'insiste toujours, une fourmi n'est pas un parasite sur un végétal. Elle ne vient pas vous manger les feuilles, elle ne vient pas piquer les feuilles, elle vient juste pour manger, absorber le sucre, donc l'excrément du puceron. Et ces feuilles, si elles se frisent, c'est parce qu'il y a des pucerons et automatiquement, ces pucerons forment du miella, c'est l'excrément du puceron, et puis ces fourmis viennent le manger. Donc c'est pour ça qu'on a des fourmis. Bien sûr, on n'aime pas trop les voir, ça pique, mais si on les laisse, elles vont venir vraiment prendre le maximum de ces excréments de pucerons. Par contre, on peut combattre les pucerons, mais si on fait un traitement chimique, on va aussi automatiquement faire mourir ces fourmis. Donc après, on est dans une période maintenant où c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de parasites justement sur ces fruitiers par rapport à des températures qu'on avait qui n'étaient pas très chaudes avant et puis très humide, et puis maintenant il fait très chaud, donc le puceron noir surtout, et le puceron vert, c'est des pucerons qui se développent à une vitesse très très grande. Donc les extrémités des fruitiers, poiriers, cerisiers, on a beaucoup de photos qui viennent sur les portables de cerisiers qui sont envahis. D'ici 15 jours, 3 semaines, ça va s'atténuer à peu près naturellement. C'est clair que la pousse qui a été endommagée par ces pucerons, elle va arrêter de grandir. C'est pas très bien, mais c'est pas grave. On va rattraper ça à la taille pour cet hiver. Et puis, sans utiliser de produits chimiques, on peut laisser passer. Parce que si on veut combattre ça, il faut vraiment le combattre en plusieurs fois avec un traitement chimique. Et il aurait fallu commencer presque avant que ça ne commence ces attaques de pucerons. Donc maintenant, c'est fortement attaqué. Un traitement ne suffirait pas. Donc, il en faudrait 3 ou 4 juste pour traiter quelque chose qui va disparaître quasi naturellement d'ici un mois.
Merci beaucoup Olivier. Et comme on le dit, laissons la fourmi faire son travail. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
7h53, Olivier, il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions que nous avons reçues. Tout d'abord celle de Nathalie de Boiscourt qui nous dit « J'ai un sureau qui est noir de puces, avec quoi puis-je le traiter ?» Merci.
La réponse est assez rapide, c'est un petit peu le même procédé que le poirier d'avant. On est dans une phase où c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de pucerons. Ce serait dommage d'utiliser un produit chimique pour traiter un sureau. Il va fleurir la même chose, donc ces petits pucerons vont disparaître, ils vont vivre encore quelques temps, mais à force qu'il fasse aussi chaud, ils vont se croiser, ils vont avoir des copulences et puis à un moment donné, ils vont disparaître. Donc, il faut laisser faire la nature. Les fourmis vont venir s'occuper d'un peu d'eux et puis après, ils vont disparaître. Mais si on commence de les traiter, on va tuer aussi les auxiliaires, les coccinelles et d'autres insectes qui seraient dommages. Mais c'est une période qui est comme ça. On a beaucoup, beaucoup de questions sur ça. Le puceron est envahissant aujourd'hui, ces quelques semaines.
Merci beaucoup Olivier. On a encore reçu cette question de Grégory Yves de Sonsbeau. Bonjour, j'ai une plante qui est en train de mourir à la maison. Elle est envahie par des cochenilles. Comment puis-je faire ? Bonne journée et merci pour tous vos conseils.
Alors ça, c'est un autre problème parce que cette plante, il doit sûrement l'avoir à l'intérieur. Les cochenilles sont un petit parasite qui va se coller sous les feuilles. Donc la première chose qu'il pourrait faire, c'est de la mettre à l'extérieur, cette plante, parce qu'on est dans une période où il fait très chaud, très bon. Donc sa plante d'intérieur, il peut la mettre dehors, il peut la mettre à l'ombre et puis il pourrait la bassiner assez régulièrement avec un jet à l'eau. Et déjà là, une partie va disparaître. Et là, il serait obligé, s'il veut vraiment éliminer la totalité de ses cochenilles, d'utiliser bien sûr un produit qui va aller dans le commerce, soit chimique ou soit naturel, qui va se renseigner là chez un vendeur. Et puis, il sera obligé de l'asperger en tout cas une, deux fois par semaine pendant deux semaines. Et ça sera la seule solution de se débarrasser de ses cochenilles. Mais de la mettre à l'extérieur va déjà en faire partir au moins un 50%.
Merci beaucoup Olivier d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs et nous avoir parlé de parterre de plantes vivaces, sujet à retrouver en cours de matinée sur notre site, à réécouter. Et puis on vous souhaite un bon week-end.
Allez, merci, pareil à vous et bon week-end ensoleillé.
Eh bien, très bon week-end à vous, Mylène. Merci. On rappelle que vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Port-en-Truy. Merci pour votre visite matinale. Et puis, les jardinières sont de retour, bien sûr, dès samedi prochain en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Vous avez toute la semaine pour nous faire parvenir vos questions jardinage en remplissant le formulaire sur notre site ou par SMS. Bon jardinage à toutes et à tous et bon week-end.
J'aimerais juste, Brian, il fait quelle profession, Olivier Ribaud ?
Il est pépiniériste.
Voilà, c'est mieux comme ça. Merci, bon
Merci
week-end
à vous.
Et
bon
à samedi week-end. Prochain.
7h, 8h, les jardinières.